Your fam will miss ya. The war's on, that's why we formed a militia. Militia. Everybody's spitting it, the rhyme is hot. Cause it's Big Shook, Guru, and Freddy the Fox. When Premier bring the beats, no, it just don't stop. It's the militia. You niggas owe me for my rhymes. I come to collect for you dope fiend niggas in rap. I'm here to inject, check. My style is water, baby, spread it around. But when you niggas don't flow it right.
Chase you out of earth.
Sur Radio G, tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. Pardon. On est très ravi donc de vous retrouver comme chaque mardi de 20h à 21h sur le 101.5 FM de Radio G pour voilà parler de toute l'actualité sportive locale mais aussi internationale. Aujourd'hui c'est une émission spéciale, une émission spéciale UFAB 49 avec donc notre partenaire. Je présenterai notre invité qui est juste là avec nous. Avant ça, je vais présenter ceux qui vont m'accompagner pour cette émission. Faustin est à ma gauche, micro bleu. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde, ça va très très bien et toi?
La forme?
Ouais.
Il y a bien. T'as joué encore
Non, ce week-end de
repos.
Dernier match ce week-end.
Ça marche. Voilà. De la saison carrément, ouais. Ça se termine
Ouais, c'est après on aura les finales, demi-finales, finales pour être champion.
Champion de
R2 potentiellement.
Voilà, là, on aura peut-être un champion dans notre émission. Et puis, il s'est passé des choses en NBA, tu nous en parleras.
Tout à fait.
Et beaucoup, beaucoup de choses. Cédric est également avec nous. Salut Cédric, comment ça va?
Salut tout le monde. Bah écoute, ça va plutôt bien.
Ça s'est bien passé le week-end également?
Ouais, un peu de sport, comme tout le monde. Hein.
Oui, bien sûr, forcément.
Il y a du long week-end, de 3 jours.
Beaucoup de choses à dire, et je crois que t'as notamment vu la finale de Ligue Magnus sans les Ducs.
J'entreperçus, ouais, un petit peu les matchs.
Sans les Ducs, malheureusement.
Mais avec les Rouennais, qui vont au courage.
C'est ça, et les Grenoblois, évidemment. Dans cette émission, nous allons donc recevoir Leïla Lacan, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Leïla, comment ça va?
Mais ça va, et toi?
Ça va très très bien, et donc pour l'interview, on passera donc à ça en deuxième partie d'émission, mais avant évidemment il y a toutes les actualités locales et internationales sur lesquelles on va revenir avec Faustin. Il y aura la pause musicale et après on passera à la partie interview. Bah écoutez, sans perdre plus de temps, on va donc commencer avec l'exploit du week-end côté sport local. Il est à mettre à l'attribut du SCO d'Angers avec cette première victoire de l'année contre Lille samedi après-midi face à un prétendant à l'Europe. Les Angevins, bon dernier de Ligue 1, ont déjoué les pronostics pour s'imposer 1-0 grâce au but de Haris Sabanovic. Après une première période dans laquelle le SCO a beaucoup subi, la révolte est venue notamment des remplaçants, comme on peut le voir sur le but avec une belle ouverture du jeune Jean-Matteo Baoya vers Adrien Hunou qui bute sur le gardien lillois avant que le latéral bosniaque ne pousse le ballon au fond des filets. Ce succès angevin intervient près de 7 mois après le dernier obtenu à Nice en septembre 2022. Alors évidemment, ces trois points glanés ne relancent pas la course au maintien, mais elle fait avant tout du bien à un effectif qui était au plus bas moralement et surtout au niveau du classement. Surtout que la fin de saison s'annonce assez compliquée avec un calendrier dans lequel le SCO va retrouver notamment Rennes, Monaco, Marseille et surtout le PSG dans une dizaine de jours. Faustin, on va passer maintenant au basket avec donc les résultats de l'UFAB, de l'EAB et de Cholet Basket.
Ouais, tout à fait. Je vais démarrer par l'EAB qui ont gagné ce week-end de 93 à 83, ce qui les envoie à la 10e place du classement. Mais on a malheureusement appris la blessure du meneur Hakeem J. Williams qui sera malheureusement indisponible jusqu'à la fin de la saison et donc pour les playoffs, dont je le rappelle, les Angevins sont sûrs d'y accéder après leur victoire en Leaders Cup. Cependant, il est d'ores et déjà remplacé par Rayjean Kelly, meneur habitué de la Pro B, notamment étant passé par Lille et Boulazac.
Donc voilà, au moins il est un KMJ Williams qui est quand même un gros artisan, ouais, des succès angevins, qui va donc quand même être remplacé par quelqu'un qui a un peu d'expérience. Je crois que Johan Choupa aussi, je crois que c'est blessé. Mais
c'est déjà.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, lui, pour l'instant, n'est pas encore remplacé. On verra ça pour la fin de saison de l'EAB.
Exactement. Je vais maintenant passer à l'UFAP qui ont malheureusement perdu contre Villeneuve-d'Ascq 82 à 71 malgré l'énorme performance d'Alexis Peterson qui a inscrit 33 points, rien que ça.
Ah oui.
C'est son plus gros, sa plus grosse performance de la saison en termes de points. Alors les Angevines se classent 6e pour l'instant, mais Charleville ainsi que Tarbes ont un match de retard, ce qui peut encore tout changer. Il ne reste aussi plus que 2 matchs pour nos Angevines. Le premier se jouera à Charleville le mercredi prochain et le dernier de la saison se jouera à Jambouin contre Roche-Vendée mardi 25 avril pendant l'émission.
C'est ça, dans 2 semaines. Donc on suivra évidemment ça et puis on reviendra sur toute l'actualité de l'UFAP 49 avec notre invité Leïla Lacan dans quelques minutes. On termine par Cholet Basket.
Ouais, Cholet qui ont démarré la semaine en s'imposant à la mer et dans un match dominé de fond en comble en demi-finale de Coupe d'Europe face aux Estoniens du BC Kalev. Le score final est donc de 81 à 59 et Cholet se qualifie donc pour la finale de Coupe d'Europe où ils affronteront le club polonais de Wrocławek. D'abord là-bas mercredi 19, puis l'ultime rencontre se jouera mercredi 26 à Cholet à la mairie.
Donc voilà, c'est une finale européenne pour Cholet Basket. C'est assez incroyable
depuis Et puis belle lurette, ouais. ça fait plaisir.
Bah
et
oui.
Je pense qu'ils ont carrément leur chance. Dans
oui. Bah, j'ai jeté un œil justement à ce que ça donnait. Alors j'ai plus le nom du club polonais en tête, mais
Wroclawek.
C'est ça, Wroclawek, qui est, je crois, à peu près 8e du championnat polonais. Donc il y a peut-être moyen quelque chose à faire sur cette finale. Mais en tout cas, merci à toi, Faustin. Évidemment, tu vas nous parler juste après de NBA. On va pouvoir continuer parce qu'il y a une autre équipe du SCO qui a fait parler d'elle ce week-end. C'est celle du SCO Handball. On savait que les joueurs d'Issam Tej étaient toujours plus proches, évidemment, d'une montée en Pro League. Eh bien, elle a été entérinée, notamment ce week-end, avec ce succès à domicile contre Mulhouse, à la salle du Hara. Les Angevins n'étaient paradoxalement pas les favoris de la rencontre, étant donné que deux des quatre meilleurs buteurs scoïstes avaient déclaré forfait, en l'occurrence donc Swan Lemarié et Ahmed Abdelhak. Malgré un effectif diminué, les jeunes ont pu faire la différence en dominant de bout en bout, une rencontre dans laquelle les Alsaciens n'auront mené que pendant les 5 premières minutes de jeu. À la pause, les Angevins menaient déjà 17-13 et malgré un retour des Mulhousiens à 28-27, les partenaires de Williams Manebar ont maîtrisé la fin de match pour s'imposer finalement 33-29. Alors, si le titre de championnat de National 1 se jouera bel et bien lors d'un Final Four au mois de juin prochain face à leurs trois poursuivants, les handballeurs angevins termineront donc assurément premier du championnat et joueront bel et bien en Pro League la saison prochaine. Donc voilà pour ce petit point avec des bons résultats, notamment du côté du sport local angevin. On va passer maintenant à l'international, on va parler football avec le championnat de France dont la situation a un petit peu bougé en haut de tableau. Alors que les Parisiens ont renoué avec la victoire contre Nice 2-0, leurs poursuivants ont échangé de position avec Lens qui possède désormais 2 points d'avance sur Marseille grâce au succès nordiste contre Strasbourg 2-1 et au nul 0-0 entre Phocéens et Lorientais. À la 4e place, les Monégasques ont calé à Nantes 2-2, tandis que Lille défait à Angers voit Lyon revenir à 5 points de la 5e place, qualificatif donc pour l'Europe. Les Lyonnais qui sont revenus aussi à 2 points de leurs adversaires du week-end, Rennes, grâce à un succès 3-1. Alors dans la course au maintien, Troyes et Ajaccio, qui ont perdu respectivement 2-0 contre Clermont et 3-0 contre Auxerre, ont désormais un pied en Ligue 2. Et puis maintenant, on va évoquer les autres compétitions de foot. On connaît désormais l'affiche de la finale de la Coupe de France le 29 avril prochain. C'est Nantes, tombeur de Lyon, qui défendra son titre contre Toulouse, vainqueur d'Annecy, 2-1. Et puis ce soir, c'est le retour de la Ligue des Champions avec un choc très attendu entre le Bayern Munich et Manchester City. Demain, c'est le Real Madrid de Karim Benzema qui affrontera Chelsea. Chelsea qui vient de changer d'entraîneur avec le retour de Frank Lampard sur le banc londonien. Et les deux autres quarts de finale opposeront l'AC Milan au Napoli et le Benfica Lisbonne à l'Inter Milan. Faustin, on est de retour avec toi pour parler de NBA et il s'est passé beaucoup de choses. Tu me parlais déjà de la semaine dernière de beaucoup d'enjeux sur cette fin de saison régulière et il s'est passé des choses.
Et oui, parce que dimanche, c'était le dernier match de saison régulière de NBA, tandis que plus rien ne pouvait bouger dans le classement à l'Est et tous les joueurs donc étaient mis au repos avant les playoffs. À l'Ouest, certaines équipes pouvaient encore sortir du play-in. C'était le cas pour les Lakers qui, en cas de victoire de leur part et de défaite des Clippers ou des Warriors, auraient pu accéder directement au play-off. Mais rien de tout cela n'a changé car les trois équipes ont gagné leur match. Par contre, ce qui a changé, c'est entre les Timberwolves et les Pelicans qui jouaient l'un contre l'autre et le vainqueur de ce match finirait 8e. Match durant lequel on a eu le droit à une scène catastrophique et assez rare dans le monde du basket, car vous avez peut-être vu les images, mais Rudy Gobert a tout simplement frappé d'un coup de poing son coéquipier Kyle Anderson après que celui-ci lui ait demandé de faire plus de contres, sur quoi Rudy Gobert lui avait répondu de prendre plus de rebonds, et Kyle Anderson a fini par dire « Shut the fuck up, bitch ».
On traduira pas.
Voilà, il n'a pas dit d'aller à la plage, ça c'est sûr.
Voilà, c'est ce qui n'a pas plu. Donc à Rudy Gobert qui, après son coup de poing, a ensuite été renvoyé premièrement au vestiaire, puis carrément renvoyé chez lui avant la fin du match. Son équipe l'a sanctionné d'un match de suspension, celui contre les Lakers pour le play-in, ce qui n'a néanmoins pas empêché son équipe de s'imposer durant ce match contre les Pelicans 113-108 et donc de finir 8e.
D'accord.
Oui, bizarrement, ça les a réveillés.
Oui, quand même. Ils ont gagné le match.
Ouais, ils ont gagné le match. C'était bizarre quand même après l'ambiance.
L'ambiance devait être pas ouf.
Dans les tribunes et tout. Même les commentateurs étaient un peu bouche bée. Ils savaient pas trop quoi dire. Parce que c'était sur Bein Sport, donc.
Ouais.
C'était les commentateurs français qui voient ça.
Gobert se ridiculisait un petit peu, quoi.
Non, c'est pas une bonne image. Déjà, Rudy Gobert en NBA, pour les Américains notamment, avait pas une très bonne image, notamment après l'affaire des micros pendant le Covid.
Oui, le Covid, bien sûr.
Bah là, ça entache encore plus son image et il risque déjà qu'il était même au sein de sa propre équipe un peu esselé, isolé, il s'entendait pas très bien.
Il vient d'arriver, sa première saison du côté de Minnesota.
Ouais,
et du coup, comment tu sens ces playoffs et ces play-in?
Pour les Wolves?
Pour un peu tout le monde, comment tu vois comme favori?
Comme favori, je te dirais bien les Bucks ou les Seas à l'Est. Après, à l'Ouest, les Warriors, c'est toujours une très grosse équipe.
Ouais, une valeur sûre.
Voilà, sinon les Clippers, moi je les voyais bien dominer tout au tout début de la saison.
Ouais.
Ça n'a pas été le cas, mais ils sont quand même en play-off direct et c'est quelque chose... ils peuvent aller loin, à mon avis.
Ok, et le play-in sens qui va se qualifier?
Clean, je pense Lakers contre les Wolves, ça va être les Lakers qui vont passer à mon avis.
Okay.
Après à l'Est, j'aimerais bien voir les Raptors passer.
Évidemment.
Ils ont deux matchs à gagner comme ils sont 9e. Et ça va pas être facile parce que c'est les Bulls et après c'est soit Atlanta soit Miami. Sinon je joue aussi Miami passer sans trop de soucis.
Voilà. Et donc aussi petit rappel évidemment comme chaque semaine la draft ça arrive quand?
Oula, la draft
bientôt.
Alors t'as la loterie le 13 mai, donc c'est pas tout de suite.
Pas tout de suite, ok.
Donc la draft doit être fin mai, début juin, ou même après.
Ça marche. Bon, évidemment, on suivra ça. C'est un dossier qui nous tient en haleine depuis le début de la saison. Donc évidemment, on suivra ça, en plus évidemment de ces playoffs de NBA. On va pouvoir donc enchaîner tout de suite. Quatre petites infos omnisports avant de passer à la pause musicale. Avec pour commencer du tennis et le Masters 1000 de Monte Carlo. Parmi les trois Français engagés, seul Benjamin Bonzi est parvenu à se qualifier pour le second tour. Tandis que Richard Gasquet et Hugo Humbert ont été éliminés respectivement par Dominic Thiem et Lorenzo Sonego. Le dernier tricolore en liste jouait donc tout à l'heure contre la tête de série numéro 2 Stefanos Tsitsipas. Et Bonzi a dû abandonner au bout de 5 jeux seulement à cause d'une blessure au poignet. Il n'y a donc plus de Français à Monte-Carlo. En rugby, deux clubs tricolores ont rejoint le dernier carré de la Champions Cup avec Toulouse qui a sorti l'équipe sud-africaine des Sharks 54 à 20 et La Rochelle qui a éliminé les Saracens 24 à 10. En demi-finale, les Toulousains se déplaceront à Dublin pour y défier le Leinster et les Rochelais recevront Exeter à Bordeaux. En balle, le suspense est total, notamment pour le titre de champion de France de la Liqui Moly Starling grâce à sa victoire 29-28 contre Montpellier samedi. Le HBC Nantes a complètement redistribué les cartes pour la victoire finale. Parisiens et Montpellierens sont désormais à ex-aequo en tête du classement et les Nantais suivent juste derrière à un point des deux leaders. Enfin, c'était ce week-end le retour de l'enfer du Nord avec cette mythique course de Paris-Roubaix. Chez les hommes, c'est le Néerlandais Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé en solitaire devant les deux Belges Jasper Philipsen et Wout Van Aert. Et chez les femmes, c'est la Canadienne Alison Jackson qui l'a emporté au sprint, notamment devant la Française Eugénie Duval qui termine quatrième. Et puis avant de passer à la pause musicale, peut-être Cédric, tu voulais revenir sur la finale de Ligue Magnus en toucher de mots, donc qui oppose les Dragons de Rouen aux Brûleurs de Loups de Grenoble. C'est Grenoble qui avait très très bien commencé avec deux victoires à domicile et un 8-1 je crois au premier match.
7-1 ou 8-1 en tout cas.
C'est un gros score, carton
important quoi.
Qui annonçait un peu la couleur et puis finalement.
Deuxième match, le score ça s'est équilibré.
Ouais.
Mais toujours au bénéfice de Grenoble. Il y a ce troisième match qui commence à se jouer à Rouen. Et qui a arrêté en cours de partie pour cause de soucis de la glace.
Trou dans la glace, on peut le dire.
Là, oui. C'est apparence même plus qu'un trou au final. C'est pour ça qu'ils ont eu du mal. Ils jouent le lendemain. Alors, c'est une chose qui était amusante. Ils ont joué le match 4 avant le match 3.
OK.
Rouen revient au score. Et ils ont recollé hier, à deux partout.
Ouais.
Donc, il reste pour l'instant encore deux matchs dans cette finale. Prochain match, je crois que ça se rejoue à Rouen.
Okay.
Et le prochain sera Grenoble, donc
Ça va être,
ça va être chaud, je pense, jusqu'au bout, au final.
Ça va être assez serré.
Ouais, 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 parce qu'on, avec le premier match, franchement, quand tu te prends un carton comme ça.
Oui, ça a de quoi.
C'est rare, en plus, en finale, ouais. T'as l'impression que la messe avait été dite. Et là, non, il y a eu un gros virement, une grosse remotivation, je pense, de Rouen.
Ouais, la fierté devant le public.
Voilà, ouais. Puis je pense un peu avec tout ce qui s'est passé autour de Grenoble cette année, je pense qu'ils ont peut-être envie d'aller chercher
quelque chose.
Et en plus, ce serait le seul club qui se qualifierait pour une Coupe d'Europe cette année.
Ouais, c'est ça. Donc, ça pourrait être évidemment très intéressant. On va pouvoir passer à la pause musicale. Et puis, on va revenir juste après pour l'interview de Leïla Lacan, qui est notre invitée dans Génération Sport. On s'écoute tout de suite Childish Gambino et son titre Less. Et on se retrouve juste après.
And everywhere else six. Time wise, the opposite goes for chicks. I'm in a taxi, texting with my best friend. He's sleeping with this girl that he met up on the West End. He's lucky, she's a career woman, no kids. Most girls see the clothes and try and go dig. Most hoes poke holes in Trojans. Most people don't fucking hit the lotto, but my folks did. I'm a mess. That don't rhyme with shit, it's just true. Don't bring your girlfriend here, it's just you. When I'm depressed, you're someone I run to, but I guess meet me at pianos. The cross fading off nanos on that hipster shit. And use a hipster bitch. Yo, but not in a lame way. Like, you ain't living out in BK. Like, you ain't working on a screenplay. Like, your baby daddy ain't a DJ. Like, she listening to old Freeway. Cause everybody listens to Biggie. But she different? Right. That's why your friends need wristbands. Fuck you. Can I have this dance?
You're the baddest. Maybe you're the baddest. Nobody else matters, girl. This is in the bathroom, this is in the bathroom, girl. I hope nobody catches,
but I kinda hope they catch us. Started dating at your art school. Cause either way we both lying more than half of the time. Except for when I'm home working on your graphic design. Every time we see each other I'm taking you home. Our relationship has gotten Sylvester Stallone. Yellow 911 Persian girl in the back car. But me writing a verse would be the only way they buy in a bar. White boys used to trip and send me over a gin. But they busy showing off each other Indian friends. She got ironic tattoos on her back. That ain't ironic, bitch, I love Rugrats. Watching lames handle they thing. They bang any bra with bangs in a band with an animal name. Hannibal Kane drinking the handle of Jameson. Anal and anyone is the plan for the evening. I'm kidding, stop.
C'était Less de Childish Gambino sur Radio G. On est de retour dans Génération Sport, votre émission sportive du 101.5 FM. Mais vous nous écoutez aussi depuis le site internet de la radio www.radio-g.fr. On est de retour avec donc Faustin et Cédric qui m'accompagnent, mais aussi avec Leïla Lacan, donc qui est avec nous, donc joueuse de l'UFAB 49. On va donc sans plus tarder passer à l'interview. Faustin aussi, tu posera quelques questions, notamment sur la fin de saison. Et puis donc voilà, on va commencer par, je vais un peu te décrire pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Donc Leïla Lacan a notamment débuté le basket du côté de l'Aveyron, au sein du Rodez Basket Aveyron. En 2020, alors qu'elle n'a que 16 ans, elle rejoint l'INSEP et l'équipe du Pôle France qui évolue en LF2 et qui vise à confronter donc les prospects du basket français à un niveau professionnel. professionnelle. La meneuse d'un mètre 80 évolue pendant deux saisons au sein du pôle et culminait notamment quasiment à 12 points par match la saison dernière. En parallèle, elle participe à la Coupe du Monde des moins de 19 ans durant l'été 2021 et à l'Euro du U18 l'été dernier. Alors qu'elle est aujourd'hui considérée comme un des plus grands espoirs du basket féminin français, elle rejoint l'intersaison dernière, donc l'UFAB 49, pour grandir un peu plus dans un club de LFB qui joue l'Europe. Et en novembre dernier, l'équipe de France A lui tend les bras avec cette participation à un stage des Bleus. Mais bon, voilà, la première cape en bleu attendra un petit peu. Est-ce que j'ai tout bon déjà, Léla? Il n'y a pas de coquille, il n'y a pas de problème, c'est bon? C'est bien décrit. Alors, si tu peux, juste avant de commencer, si tu peux juste t'avancer un petit peu plus, voilà, pour le micro, c'est parfait. On va commencer par justement ce parcours un peu atypique que tu as eu, puisque donc tu es passé par l'INSEP, et donc cette équipe du Pôle France. Avant de revenir sur ton arrivée à Angers, comment tu es arrivé du côté de l'INSEP? Comment ça s'est fait et pourquoi avoir choisi l'INSEP?
Depuis très jeune, le collège. Depuis le début du collège, on fait des tournois à l'échelle départementale, puis régionale. Donc pour mon année de quatrième, je suis allée à Toulouse dans un pôle qui réunit, on va dire, les espoirs régionaux. J'y suis restée 2 ans. Puis il y a des sélections, des tournois qui mènent jusqu'au test d'entrée pour l'INSEP à Paris. Et donc j'ai été prise là-bas et on va dire que c'est... c'est un peu l'endroit où tout le monde veut aller. Donc comme j'ai été prise, il n'y a pas eu de choix, enfin il n'y a pas eu à réfléchir, j'y suis allée quoi.
Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement ce passage à l'INSEP et dans l'équipe du Pôle France?
Déjà on a des coachs, les coachs qui s'occupent des équipes nationales jeunes. Donc forcément un encadrement qui connaît bien son métier et en qui on peut avoir confiance, qui peuvent t'analyser et te dire les points sur lesquels il faut que tu avances pour atteindre le haut niveau. La structure de l'INSEP, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment ailleurs en France, en tout cas, que ce soit sur le plan médical, accompagnement physique, il y a tout qui est réuni pour qu'on réussisse un maximum. Et en plus, on joue en National 1 en première année et en Ligue 2, deuxième et troisième année. Donc ça, c'est un niveau que à cet âge-là, il n'y a pas beaucoup d'équipes de National 1 ou de Ligue 2 qui peuvent faire confiance à des jeunes et les faire jouer. Donc c'est pour ça que je suis allée aussi à l'INSEP parce qu'on joue dans des niveaux qui peuvent que nous faire progresser. C'est difficile, on perd beaucoup, mais au résultat, à la fin de ces 3 années, on est prête pour certaines à grandir encore un peu plus et aller en Ligue féminine.
Ouais, ça permet de se confronter à pas mal de grosses équipes. Et donc,
puis l'avantage de l'INSEP, c'est que voilà, ça a souvent l'image en fait d'usine à champion, d'une fabrique à champion. Mais on avait reçu il y a quelques années de ça Colette Fouillé qui s'en était occupée pour la partie judo. Et ce qu'elle expliquait, c'est qu'il mettait en avant aussi bien le travail sportif, mais aussi le travail scolaire, qui avait une place limite peut-être plus important au final que le sportif, puisque ça permet aussi de construire les deux au cas où il y a un souci pour plus tard, voilà, pour une future reconversion ou des choses comme ça.
C'est vrai que on a beaucoup de pression aussi pour les cours justement. Il y a des gens qui disent que à l'INSEP on nous donne le bac parce que c'est ce qu'on passe quand on est à l'INSEP, mais je suis pas d'accord parce que il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour qu'on réussisse. Si tu as des difficultés, on fait venir un prof exprès pour toi. On a des cours jusqu'à 21h45, études. Donc je trouve pas que le bac nous soit donné, mais tout simplement ils mettent vraiment des choses en place pour qu'on y arrive.
Oui, surtout que vous passez le bac comme tout le monde en fait, finalement. Il y a juste peut-être plus d'accompagnement. Est-ce que du coup, donc, on va passer donc maintenant à ton arrivée à Angers. Donc après donc cette aventure à l'INSEP, il y a ce premier contrat pro qui te tend les mains. Est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de concurrence sur Angers, à part Angers, je veux dire comme club? T'es contacté par d'autres clubs ou ouais?
Oui, j'ai eu d'autres propositions. Quand on arrive dans la période de février par là, à l'INSEP, enfin nos coachs envoient nos dossiers dans les clubs de Ligue ou de Ligue 2. Et en fonction de ce qu'ils pensent le mieux, être le mieux pour nous, ils favorisent la Ligue ou la Ligue 2. Donc je sais pas si j'ai eu des propositions en Ligue 2 parce que ils ont favorisé la Ligue.
Ouais.
Donc j'ai eu plusieurs propositions, oui.
Et du coup, comment t'as été contacté par Angers? C'est David Gauthier qui t'a notamment convaincu de venir à Angers?
Oui, c'est David Gauthier qui m'a envoyé la proposition. Donc ça passe par l'INSEP, c'est eux qui nous donnent nos dossiers. Après, on a des agents qui peuvent aussi intervenir là-dedans. Et donc je suis allée faire une visite à Angers en mars, je pense, mars dernier. Et donc j'avais passé une journée ici, on m'avait montré un peu les structures, la salle, les kinés. J'avais fait connaissance avec David et avec Maxime, l'assistant. Et j'avais vu les filles aussi. Et donc tout ça avait fait que je pensais que ça allait être le mieux pour moi.
Et est-ce que justement le fait que l'UFAB ait joué notamment les playoffs l'année dernière, et en plus de la participation à l'Eurocoupe, ça t'a motivé, peut-être convaincu de rejoindre Angers?
Au moment où j'ai signé, je savais pas encore okay. Où est-ce qu'elles allaient être placées dans le championnat, ni s'il y allait avoir l'Eurocup. Donc moi, ce qui m'intéressait surtout, enfin ce qui m'a motivée surtout, c'est ce qui était proposé pour moi. Enfin, qu'on me laisse ma chance ouais. En tant que jeune, c'est pas partout que on peut avoir ces opportunités là, et que le jeu qui était annoncé.
Ouais.
Le style de jeu qui allait être. Okay.
Qui te correspond, d'accord.
Voilà.
Et justement, quand tu es arrivé, normalement, donc, David Gauthier devait reprendre la saison de ton coach, et finalement, donc, il est parti à l'ASVEL et Aurélie Bonan est arrivée pour le remplacer. Comment tu as vécu ce changement de coach alors que tu venais justement d'arriver, que tu disais que tu avais été séduit par le projet de David Gauthier? Comment toi, tu as vécu ça?
Quand j'ai appris qu'il partait, j'ai eu un moment un peu de panique, on va dire, parce que, comme je vous l'ai dit, je sors de l'INSEP, je suis jeune, je prends un risque de venir en Ligue, donc j'étais, en fonction du coach, les idées, la confiance qu'on peut donner aux jeunes, ça change. Donc sur le coup, j'étais un petit peu paniquée, je savais pas trop, du coup, comment ça allait se passer pour moi, si j'avais fait le bon choix. Et au final, quelques jours après, ils ont trouvé la coach qui allait remplacer David. Elle m'a appelée, elle m'a rassurée en me disant que ça changeait rien pour moi. Et on le voit cette année que finalement, c'est très bien comme ça.
Ouais, t'as du temps de jeu et tout. Et comment tu définirais le style de coaching, style de jeu notamment de Aurélie Bonan?
Aurélie, c'est donc une ancienne joueuse professionnelle. Donc je pense que d'un côté, elle veut qu'on soit un peu, qu'on ait les valeurs qu'elle avait quand elle jouait, donc c'est-à-dire défendre, être toujours à fond, courir, donc surtout les bases en fait. Et parce que si on défend bien, on peut trouver après du jeu rapide et se mettre en confiance en attaque. Donc je pense que elle, ce qu'elle veut vraiment, c'est qu'on défende. Et au-delà de ça, c'est une coach qui est honnête, je pense. Si elle a quelque chose à te dire, elle te le dira directement et tu t'attends. Enfin, il n'y a pas de choses inattendues qui peuvent arriver et te surprendre parce qu'elle est toujours, toujours honnête.
T'es arrivé donc cet été à Angers. Comment ça s'est passé de façon globale, ton intégration au sein de l'équipe, du club, mais aussi de la ville? Comment s'est passé tout ça?
Je suis arrivée donc en août. Mes deux premières semaines, j'ai été aménagée parce que je revenais de vacances d'été qui ont été très chargées. Du coup, Auré m'avait permise de faire un peu à ma sauce les deux premières semaines pour m'entraîner ou pas. Mais les filles qui étaient déjà là m'ont très bien accueillie. Keke s'occupait, Keke Lienga, notre capitaine, elle était très, elle m'accompagnait beaucoup au début. Et après, on va dire que j'ai eu de la chance aussi sur le groupe sur lequel je suis tombée, parce que vraiment très bienveillante et donc je me suis sentie bien.
Ouais, et justement, je voulais revenir sur un truc, notamment au poste de meneuse, il y a deux joueuses importante dans le groupe de cadres de l'effectif. Il y a Isis Orondo, qui est une joueuse qui en est à sa quatrième saison à Angers. Et il y a Alexis Patterson, qui est une des meilleures joueuses de la Ligue. Et donc, voilà, ce sont deux leaders de vestiaire. Alors, je ne veux pas te parler, évidemment, de concurrence ou quoi que ce soit, mais justement, tu parlais d'accompagnement. Est-ce qu'elles te prennent un peu sous leur aile? Est-ce qu'elles t'apportent quelque chose au quotidien? Est-ce qu'elles te conseillent, notamment?
Alexis, bah déjà, ce qu'elle apporte, ben c'est son niveau, donc à l'entraînement ça me sert, ça me fait travailler, donc déjà de ce côté là elle m'apporte par son talent. Après elles sont toujours bienveillantes, encore une fois comme j'ai dit, Isis qui elle aussi a commencé jeune dans un club, enfin dans la ligue féminine, elle a toujours toujours des bons conseils, toujours pour encourager, donc ça c'est bien. Et Alexis, elle encourage en donnant des précisions techniques et en me conseillant, t'aurais peut-être pu faire comme ça au lieu de comme ça. Donc, c'est comme ça que les deux m'accompagnent.
Ouais, ça t'aide beaucoup pour progresser. Cette saison en championnat, vous avez connu des hauts et des bas. Voilà, aujourd'hui, vous êtes quand même plus dans la partie play-off. Mais au final, comment tu juges cette saison de l'UFAB du côté du championnat?
Cette année, c'est un championnat qui est quand même très serré. À part les quatre premières équipes qui sont qui sont détachées, qui sont pas susceptibles de se retrouver en play-down.
Ouais.
Il y a deux équipes quand même qui sont assez bas de tableau et que on est à peu près sûr de les retrouver en play-down. Mais tout le reste de ces équipes, ça se joue à une victoire près. Ouais. Donc là, c'est encore, on sait pas du tout où est-ce qu'on peut se retrouver. Autant on peut se retrouver sixième comme onzième. Donc en fait, c'est de la pression quand même parce que jouer des play-down, bon, moi, j'ai jamais fait.
Ouais.
Mais de ce que j'entends, t'as pas vraiment envie d'y aller parce que ça, oui, t'as de la pression et on a forcément envie de réussir et de réavoir la Coupe d'Europe l'année prochaine.
Et pour revenir un peu sur les matchs d'avant, alors Faustin, tu reviendras toi sur la fin de saison. Est-ce que, alors il y a une série quand même très positive de 3 victoires de suite que vous avez connue à peu près fin mars. Est-ce que pour toi ça a été vraiment une série décisive pour la course au maintien? Ça vous a détaché un peu plus des dernières places?
Juste avant cette série de victoires, on a eu une série de défaites contre des grosses équipes qu'on a jouées à répétition. Donc forcément que quand on a pu jouer contre des équipes un peu plus bas de tableau, on va dire, on a voulu marquer le coup. Et notamment avec la victoire contre Tarbes, parce que Tarbes, on est à la victoire près avec elle. Donc forcément, ça fait du bien et ça nous aide à rester dans le coup, quoi.
Et justement aussi, tu parlais de Tarbes, mais il y a aussi Basketland, donc c'était la première des 3 victoires. C'était là-bas, à Mont-de-Marsan, avec donc un gros effectif quand même à Basketland. Est-ce que c'est une victoire qui a fait notamment du bien au groupe?
Oui, forcément, parce que à l'aller, on s'était pris, 25 ou 25 points, quelque chose comme ça. On était venu 2 semaines avant, je crois, à Basketland pour la Coupe de France. On avait pris 20 points, ou je sais plus vraiment, mais on avait perdu, quoi. Donc, quand on est retourné à Basketland, on sait que c'est une ambiance folle. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. C'est dur à aller gagner à Basketland.
Vous aviez perdu en coupe, notamment.
Ouais, on avait perdu là-bas en coupe. Donc, quand on a gagné là-bas, ça redonne de la confiance et forcément, ça fait du bien parce que c'est une victoire contre une équipe quand même qui a une saison à laquelle on ne s'attendait pas, que du coup on peut envisager qu'elle est meilleure que nous, et pourtant on a gagné ce jour-là, donc forcément ça fait du bien.
Et justement, après ces 3 victoires, il y a eu 2 défaites, donc contre Toulouse et Villeneuve-d'Ascq. Qu'est-ce qui s'est passé un peu sur ces matchs-là, sur ces deux défaites? Comment on les explique?
Toulouse, on va dire que la semaine on avait été un peu moins, on avait des entraînements un peu moins bons en termes de qualité. Ouais. Après bon, c'est comme ça. Ce jour-là, elles ont été meilleures que nous. Peut-être que si on rejoue le match demain, ça sera pas le même résultat. Ouais. Voilà. Sur ce coup-là, c'est le jeu, on va dire. On s'est un peu relâché sur la fin. Après Villeneuve, pareil. Je pense que c'est une des quatre équipes du coup qui est loin devant.
Ouais.
Et pourtant, on a accroché tout le match.
Ouais, ça c'était quand même assez sérieux.
Voilà,
ouais.
On s'est relâché à la fin, mais bon, après on est fiers de nous. On était surtout tristes à la fin parce que on était si près du but pour au final lâcher sur des détails. Donc voilà.
Et donc il reste deux matchs et pour la fin de saison, Faustin, peut-être que tu veux en toucher deux mots.
Ouais, je me demandais pour ces deux derniers matchs, donc contre Charleville pour le premier et contre Rochevendée le deuxième, est-ce que vous avez des appréhensions ou est-ce que vous êtes plutôt confiante avant d'entamer ces deux matchs?
On a hâte, je pense, parce que Charleville c'était aussi une équipe qui, au moment où on l'a joué, était à plusieurs victoires devant nous. Ce qu'on a lâché sur la fin du match, c'est pour ça qu'on le perd. Donc on a hâte d'y retourner. Moi. Aussi spécialement parce que je me suis fait casser le nez sur ce match-là et trouer la lèvre, donc j'ai hâte d'y retourner pour en découdre. Et La Roche, on les a gagnés donc à l'aller là-bas, et on sait que c'est une équipe avec qui on est au coude à coude aussi, donc faut absolument gagner, donc on y va sans complexe et on est prête.
Ouais, du coup sur un point de vue plus personnel, est-ce que tu t'attends à recevoir un rôle assez important dans ces deux matchs, au niveau défensif ou offensif?
Défensif, je pense, parce que, avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, Aurélie, la défense, c'est quelque chose qui est très important pour elle. Donc, depuis le début de la saison, elle me motive pas mal là-dessus, parce que c'était pas quelque chose qui était trop dans mes qualités, on va dire. Mais ça s'améliore, donc en défense, oui, j'espère être, comment dire, enfin, qu'elle compte sur moi là-dessus. Et après...
Pas de rôle en particulier, quoi.
Okay. Non, voilà, après, essayer de faire de son mieux et rien lâcher.
Ok, et dernière question du coup, est-ce que vous, l'équipe, il y a une équipe du top 4 du coup, que vous aimeriez éviter plus qu'une autre si qualification en play-off il y a?
Lyon, on les a assez joués cette année.
Ouais. Et un peu, enfin, oui. Un peu trop de défaites quoi.
Voilà, Lyon, bon, après, je dis pas forcément qu'elles sont meilleures que les autres équipes du top 4, parce qu'elles ont chacune quelque chose qui est difficile à aller chercher. Mais bon, on les a assez joués cette année.
Ça
c'est
suffit,
bon.
Là. Faut arrêter.
Et puis Lyon, on va avoir quand même un calendrier assez chargé, puisqu'elles jouent encore la Coupe de France.
Et la finale de recoupe aussi.
La finale de recoupe. Elles vont faire une double confrontation contre Basketland.
Ouais.
Donc ça peut, alors bon, ça changera pas le classement, mais bon, ça peut leur mettre un petit coup d'impact pour le reste de la saison en cas de défaite consécutive. Ou comme pour Angers, ça peut être aussi d'un point de vue classement, ça peut être intéressant si Basketland enchaîne un peu les revers face à Lyon. Vu qu'il y a plus qu'un point d'écart entre les deux, ça met une pression justement jusqu'au bout. Là où c'est vrai que dans tous les cas, va pas falloir lâcher le morceau jusqu'au dernier match.
Et du coup, vous sentez qu'il y a peut-être un coup, si jamais vous êtes en play-off, il y a peut-être un coup à faire ou vous verrez après au moment
Là, pour l'instant, la chose à laquelle on pense dans l'immédiat, c'est les play-offs. Après, ouais. Bon, contre qui on tombe, ça ne change pas notre envie de gagner. Même si on sait qu'il y a forcément des équipes qui sont meilleures que nous, c'est pas pour autant que si on les joue, on va se dire ah, bah, c'est fichu, on y va. Et puis. On verra sur le moment ce que ça donne.
Et les play-downs, tu disais, vous les évitez, ce qui est évidemment logique. Mais même si vous les jouez, est-ce que vous êtes quand même prête à aborder sereinement, en plein de confiance, ou est-ce que vous allez appréhender justement pareil au moment présent?
Il y a une seule équipe qui descend dans les play-downs, donc ça se joue au nombre de victoires contre les autres équipes qui sont dans les play-downs. Donc les équipes qui sont susceptibles de s'y retrouver face à elles, on a quand même pas mal gagné, donc on aurait un nombre de victoires d'avance sur certaines équipes, donc pas sereine parce que on sait jamais, il faut quand même gagner ces matchs, mais un peu plus relâché que si on était justement les équipes qui sont au fond du tableau.
Sinon, je voulais revenir plus globalement sur le parcours européen, notamment justement, en Eurocoupe cette saison. Vous êtes arrivé du coup jusqu'en quart de finale, donc avec cette élimination contre Lyon, on en a un peu parlé. Est-ce que vous avez pu un peu tirer du positif de cette longue aventure en Europe?
La première phase, les phases de poule, on avait deux équipes quand même assez faibles et Charleville. Pour ma part, j'ai pas trouvé que c'était très intéressant pour la phase de poule parce que le niveau était pas très élevé. Après, au fur et à mesure, quand on a passé les huitièmes et tout ça, le niveau a été meilleur. Donc, forcément, de jouer contre des équipes d'autres pays et de voir aussi que on peut quand même se confronter. C'est pas parce que c'est dans un autre pays que c'est meilleur que nous. Forcément ça fait du bien aussi, on a un peu voyagé, même si on n'a pas vu grand chose des villes où on était, on a quand même passé des moments ensemble. Les déplacements, c'est des moments où on est beaucoup tout ensemble et on s'entend plutôt bien, donc c'est cool. Et après on est tombé contre Lyon et puis voilà, ouais. Mais bon,
le match aller a été très compliqué,
voilà, c'était pas facile, mais on est arrivé jusqu'en quart de finale. Ouais, c'est une première pour le club, on était contente de se retrouver là-bas, donc c'était une bonne expérience.
Et le calendrier qui a été du coup très chargé, est-ce que ça vous a pas un peu fait défaut justement, ou pas du tout?
Au début de la saison un peu, parce que on partait en Croatie je crois et en
République tchèque,
voilà, donc ça c'est des longs déplacements parce que on fait l'aller-retour sur 3 jours je pense. Et franchement, c'est très long. Donc ça, c'est surtout ces déplacements-là qui fatiguent. Après, quand il faut aller en Belgique ou à Madrid, ça se fait facilement. Ouais. Donc ça, c'était un déplacement comme un autre, on va dire. C'était pas très impactant sur la fatigue. Mais après, ça enlève des entraînements.
Ouais, forcément. Donc ça empêche un peu de bosser.
Voilà.
On va parler maintenant de ta saison d'un point de vue personnel. Justement, tout simplement, comment tu juges ta première saison du côté de la LFB?
Il y a des hauts et des bas. Le dernier bas, c'était samedi.
Je voulais revenir dessus après, mais.
Ah, c'était samedi qui vient de passer. Faut que je l'accepte, on va dire, que c'est pas toujours tout beau, tout rose et que. Voilà, il y a des matchs où tout nous réussit et des matchs où c'est plus compliqué. Après, je trouve que cette saison, ça va. Je m'en sors pas trop mal. Il y a des choses qu'il faut que je corrige et sur lesquelles forcément j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et sur lesquelles je dois beaucoup progresser. Après, c'était ma première saison. Je me laisse quelques ratés, on va dire, et puis, puis voilà.
Mais tu te sens bien intégré au championnat dans sa globalité. Oui. Du coup, tu disais samedi, tu as connu une triste soirée à titre personnel. Donc voilà, 24 minutes sur le terrain, 0.0 sur 4 au tir, moins 3 d'évaluation. Alors le but, c'est évidemment pas de remuer le couteau dans la plaie. Mais quand on connaît des matchs galères comme ça, qu'est-ce qu'on se dit après la rencontre? Est-ce que tu as été soutenu aussi par tes coéquipières peut-être?
Alors après le match, j'étais un petit peu, je me questionnais un petit peu, pourquoi j'ai été aussi nulle. Mais donc j'étais un petit peu en retrait. Mes coéquipières sont venues me parler, surtout celles qui sont un peu plus âgées, qui ont de l'expérience et à qui c'est forcément arrivé déjà. Donc ça me conseille. La coach aussi est venue me parler. En me disant que c'était un raté, c'était mon petit bonus de la saison, il n'y en aura plus. Et ça m'a fait du bien. Donc là, je suis prête à repartir du bon pied. Et puis voilà, ça arrive et ça m'est déjà arrivé, ça me réarrivera sûrement. Et puis il faut juste avancer et c'est pas grave.
Je voulais revenir aussi sur un autre épisode de ta saison. T'as connu, du coup, t'en as un peu parlé, de ta blessure au visage, donc notamment au nez. Et à la lèvre, ça t'a obligé notamment à porter un masque pendant les matchs, un peu comme ta capitaine, Kelly Elenga. Raconte-nous justement comment cette blessure est arrivée, comment c'est arrivé de te faire aussi mal.
Alors, c'était le match contre Charleville, c'était juste avant la mi-temps, quelques secondes avant la mi-temps. Je vais au rebond, puis je me prends, je sais même pas, je crois que je me suis pris un coup de coude, quelque chose comme ça. Donc je suis en sang à la lèvre, donc j'ai elle est percée, on va dire. Donc voilà, mon nez va bien à ce moment-là, donc je vais au vestiaire, je saigne. Je refuse de qu'on me fasse un point.
OK.
On met un pansement, je retourne au match, donc je joue. Et puis, je sais pas, une minute avant la fin du match, je défends et je me prends un front.
Ah oui.
Du coup, là, j'ai pas saigné du nez, mais j'avais mal, donc oui. Je sors. J'imagine. Et puis, au final, on m'a fait le point à la lèvre.
Ouais.
Et bon, quelques jours après, j'ai fait une radio, donc j'avais une fracture du nez.
Ah oui, quand même.
J'ai dû faire un masque en urgence parce que le lendemain on partait à Madrid, on partait en Belgique, il me semble. Et donc je suis allée là où j'ai pu et on va dire que c'est des gens qui n'avaient pas l'habitude de faire des masques, donc
sur mesure.
Voilà, le masque n'était pas forcément adapté. Je voyais pas grand chose. Il remontait jusqu'au front, il descendait, il descendait jusqu'au-dessus de la lèvre, on va dire. Donc c'était pas facile.
Il t'a gêné un peu?
Ben oui, parce que tu perds un peu tes repères, tu vois pas sur les côtés.
Ta vision,
voilà, tout, c'était un petit peu difficile de se situer sur le terrain. Donc j'ai fait un match, c'est pas une excuse, mais voilà, ça a pas aidé pour le match assez pourri que j'ai fait juste après. Et on m'a refait un masque et après, je m'y suis fait. Et il fait chaud dessous, mais c'est tout.
J'aimerais du coup maintenant qu'on revienne sur ton lien avec l'équipe de France. Tu as notamment participé à la médaille de bronze, donc on l'a dit, à l'été 2022 pour l'équipe de France U18 lors du dernier Euro qui se passait en Grèce. Tu as été récompensé, si je ne dis pas bêtise, d'une place dans le 5 majeur de la compétition. Est-ce que c'est un premier accomplissement dans ta carrière, ce genre de performance, avec le maillot bleu en plus?
J'ai fait 3 compétitions internationales et c'est la première fois que je fais une médaille. Donc déjà ça, j'étais très contente, surtout que c'était avec ma génération, c'était ma première compétition avec ma génération. Donc j'étais très contente de faire ça avec elle. Après, forcément, j'avais un rôle dans cette équipe parce que j'avais fait des tournois avec en étant surclassée.
Ouais.
Donc les coachs attendaient de moi et je pense que les filles aussi. Donc avoir ce titre, je sais pas trop comment.
Cette médaille.
Voilà, enfin non, je veux dire
cette reconnaissance.
Voilà, cette reconnaissance d'être dans le 5 majeur du tournoi, forcément que je me dis que d'un côté, j'ai fait un petit peu le taf ce qu'on attendait de moi quoi. Donc oui, c'est
et ça puis... fait du bien. Et puis je le disais en introduction, tu as pu prendre part à un rassemblement de l'équipe de France A en novembre dernier. Quelle sensation ça t'a fait quand le sélectionneur t'a convoqué, même si c'était pas pour que tu joues les matchs? Ça t'a fait quoi?
Le coach de l'équipe de France, il passe beaucoup à l'INSEP parce que il était coach avant à l'INSEP. Donc j'ai déjà parlé avec lui l'été dernier. J'avais fait un tournoi au Canada. C'était lui le coach. Donc on avait déjà parlé. Je savais que j'allais être appelée à un moment donné. Donc quand j'ai reçu ce mail qui me disait que j'allais faire la fenêtre internationale, je me suis dit que ça y est, enfin c'était le moment de se lancer. J'étais annoncée comme partenaire d'entraînement donc avec Dominique Malonga, l'intérieur de Lyon. Mais quand on est arrivé au stage, il nous a dit que on était annoncé comme tel, mais que on avait quand même une chance d'être potentiellement sélectionné pour les matchs. Bon, moi, ça n'a pas été le cas pour moi. Ouais. Pour elle, oui. Donc voilà. Après.
Oui, t'en auras d'autres, t'es encore jeune. Quand même.
Ben, j'espère. j'espère que ça se représentera l'opportunité pour moi.
Ouais, à l'avenir. Comment tu vois, du coup, ton aventure en bleu? Tu vois ça quelque chose d'important dans ta carrière?
Depuis que je suis toute petite, je rêve d'équipe de France. Je pense que c'est pareil que pour tous les petits qui font du basket. On rêve d'être pro en équipe de France. Donc forcément, c'est un objectif. J'espère un jour être une joueuse de l'équipe de France A. Et oui.
Oui, pourquoi pas.
Et 2024, un peu dans la tête ou pas?
2024, oui, un peu dans la tête. Parce que faire des JO à Paris, forcément, ça donne envie. Donc j'ai envie de me le mettre dans un petit coin de ma tête. Après, je ne mets pas forcément une pression par rapport à ça, mais forcément, j'y pense et j'en rêve.
On croise les doigts.
Parce que je pense que ça va être surtout décidé sur la prochaine saison.
Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, les gars? Faustin, Cédric, peut-être?
Une question un peu plus générale. Tu penses quoi de la ville d'Angers, de ses alentours, en termes d'ambiance, du public, enfin?
Alors, je passe pas beaucoup de temps dehors, enfin, dans Angers, mais je sais que si j'ai envie d'aller faire un tour, c'est joli, parce que je suis quand même déjà sortie de chez moi. C'est joli et il y a des choses à faire. J'aime bien aussi le côté, enfin, que ça soit jeune quand même, comme ville. Et non, c'est sympa, je m'y plais bien, Angers.
Ouais. Je voulais revenir sur d'autres questions personnelles. Est-ce que tu as des inspirations dans le basket, des joueurs ou des joueuses qui t'ont inspiré, qui t'ont fait rêver quand tu étais plus jeune?
Quand j'étais petite, j'aimais bien Tony Parker, Céline Dumerc. Après, maintenant que je grandis, je découvre d'autres joueuses qui sont un peu plus, ouais, un peu moins médiatisées, on va dire. Donc j'aime bien du côté hongrois, j'aime bien Ali Quigley. Donc c'est une joueuse qui joue en début de NBA, enfin qui jouait. Après, j'aime bien Marine Joannès aussi. Ouais. J'aime bien son jeu. Et voilà, après.
Et du coup, tu regardes un peu la WNBA?
Non, je regarde pas. Non, je suis plutôt Euroleague garçon. Moi, je regarde.
Ok, et justement la WNBA, c'est quelque chose qui te plairait dans l'avenir, dans longtemps, ou alors t'as le temps évidemment, mais quelque chose qui te plairait ou pas du tout?
Justement, il y a eu la draft des filles hier, ouais, il me semble, donc je vois des joueuses qui y vont et ça donne envie quand même, ouais, rien que de se dire si je suis draftée, c'est que quand même c'est une reconnaissance encore, ouais, donc. Oui, bon, j'ai envie de jouer au meilleur niveau possible et la WNBA, ça en fait partie. Donc oui, c'est voilà, c'est dans un coin de ma tête.
Ouais, pourquoi pas. Et puis dernière question, justement, je disais, t'es un peu considéré comme un grand espoir du basket français. Comment tu gères ça? T'as été souvent aussi surclassé. Il y a aussi, c'est ton premier contrat pro alors que t'as 18 ans. Comment tu gères un peu tout ça qui arrive assez tôt pour toi?
Il y a des attentes forcément, du coup, parce que il y a pas un statut, mais il y a quand même je sais pas trop comment dire ça, il y a des attentes, quoi,
c'est ça,
voilà, ouais. Et donc des fois ça peut un petit peu ça m'est arrivé d'être un petit peu stressée par rapport à, ouais, ça, mais bon, après la plupart du temps je fais ma vie, quoi, j'y pense pas.
Tu joues ton basket et puis...
Voilà, je m'affole pas quand je fais des matchs comme la semaine dernière, ça arrive, mais je me laisse le temps.
T'as le temps pour progresser, ça aussi, l'avantage de très rapidement avoir ce contrat pro, d'avoir une expérience, c'est que tu peux avoir le temps, en fait, de progresser quelque part. Cédric, pas d'autres questions?
Non, si tu veux, on peut faire un point sur les prochaines dates
de l'UFAB.
De l'UFAB, oui.
Ouais. Vas-y, je t'écoute. On a un peu déjà parlé, hein, mais il y a le 25.
Le 25 pour le dernier match à domicile, qui sera, on l'espère pas, mais qui peut être décisive pour les playoffs. Et sinon, il y aura le dernier match à l'extérieur, le mercredi 19, contre Flamis Carlo.
Les flammes Calarolo. Chers auditeurs, n'hésitez pas, dans deux semaines, donc
peut-être le que derby. Le club a prévu quelque chose de spécial justement pour ce dernier match de saison
régulière.
Voilà.
Non, pas spécialement. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui veulent y aller, eh bien, rendez-vous du coup le 25 à la salle Jean Bouin pour aller supporter les Angevines dans ce derby face à Roche-Rodé. Merci beaucoup, Leïla, d'avoir été avec nous dans Génération Sport. Écoute, voilà, tu reviens quand tu veux, j'ai envie de te dire.
Merci à vous de m'avoir invité.
Eh bien, écoute, le plaisir est pour nous. On va pouvoir donc tout de suite se quitter. Vous allez pouvoir retrouver juste après nous une émission enregistrée des plantes vagabondes. Et puis, quant à nous, messieurs, en tout cas, merci à vous, Faustin et Cédric, d'avoir été avec moi pour cette émission. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine émission de Génération Sport. Et on vous souhaite une bonne soirée sur Radio G.